Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, on est jeudi et le jeudi c'est warm-up du Grand Prix d'Italie à quelques jours seulement de la course à Monza, la 16e manche de cette saison 2025. D'ailleurs, dernière course en Europe aussi hein, cette année. Ah ouais, la Formule 1 qui va quitter l'Europe et bien évidemment Monza, le temple de la vitesse, un Grand Prix, une date qu'on adore, ne serait-ce que pour cet engouement des tifosi qui ont fait un accueil à Lewis Hamilton en rockstar, alors que Lewis Hamilton est en souffrance sur la piste. On va bien évidemment en reparler. Ça va d'ailleurs être une de nos thématiques du jour. Hein. Lewis Hamilton joue-t-il déjà vraiment gros à Monza ce week-end? Parce qu'il ne faut pas se rater devant les tifosi. Ils peuvent te donner beaucoup, beaucoup d'amour, mais si jamais tu te plantes, ils peuvent aussi très rapidement te crucifier, même si tu es un septuple champion du monde. Donc ça va être super intéressant de voir tout ça. L'équipe des ingénieurs. Voilà, c'est le petit duo de rookie. Ouais, les rookies sont avec nous aujourd'hui. Tristan Van den Driche et Séraphin Bette. Salut les gars.
Salut tout le monde.
Salut. Et Tristan qui a un très beau t-shirt ce week-end.
Ah oui, vous voyez pas, mais
pour ceux qui nous voient pas sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram RMC Formule 1, vous pouvez voir le t-shirt de Tristan. Raconte-nous, c'est le t-shirt de Monza, c'est ça, du Grand Prix?
Ouais, c'est la collection. Ferrari a sorti une collection qui, comme ils font depuis 2022 maintenant, où ils font des collections spéciales à chaque fois pour leur Grand Prix à domicile. Cette année, ils célèbrent les 50 ans du titre de Niki Lauda en 75 dans sa 312T. Et donc ils ont sorti une livrée spéciale et du merch aussi. Donc les pilotes auront une combinaison et une livrée de l'époque 1975, mais avec les sponsors de cette année.
Il est là, il est déjà dans son Grand Prix, le Tristan, c'est
le
énorme. Oh là là, c'est beau ce que vous faites. En plus, vous baissez la moyenne d'âge du podcast et on embrasse Jean-Luc Roy. Ça, c'est beau. Allez les gars, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix d'Italie. Bon, Monza, on ne présente plus, hein, mais malgré tout, c'est un circuit, les gars, qui a des spécificités vraiment propres à ce tracé. Je vais vous donner le programme du week-end, quand même, parce que vous savez que tous les Grands Prix sont à suivre sur l'antenne de RMC. Ça débutera demain à 13h30 pour la première séance d'essais libres. À 17h, vous avez les essais libres 2, et puis samedi, à 12h30, la troisième séance d'essais. À 16h, les qualifs avec Jean-Luc, du coup, sur la radio. Et à 15h dimanche, départ de la course à Monza. Conditions météo bonnes hein, les gars hein, pour ce week-end. On n'annonce pas de pluie hein, d'après ce que j'ai vu.
Non, il va faire beau, ouais. Pas de pluie. Il devrait pas faire trop chaud non plus, ce qui parfois peut être le cas à Monza, même si la piste n'est pas connue pour des fortes dégradations vu qu'il y a peu de virages en appui. C'est beaucoup de lignes droites. Mais non, un week-end pas comme à Zandvoort où on nous annonce beaucoup de pluie. Au final, il se passe rien. Ouais. Là, ça devrait être calme et avec un soleil, un beau soleil pour illuminer les tribunes italiennes.
Ah ouais, les tribunes rouges. Ouais, on attend 26, 27 degrés hein, chaque après-midi. Séraphin, avant de parler de l'ambiance de Monza, les spécificités de ce circuit, j'en parlais. Redonne-les pour les auditeurs qui découvrent le paddock RMC, qui ne nous ont pas suivis l'année dernière, parce qu'il y a aussi le podcast de l'année dernière qui est dispo, hein, encore en ligne. C'est vraiment un circuit ultra particulier, Monza, Séraphin.
On l'appelle... toujours, hein, le temple de la vitesse, c'est pas pour rien, et Tristan l'a dit, très peu de virages, le circuit extrêmement rapide. C'est là où on va avoir aussi des voitures avec très peu de charge, avec des voitures qui vont aller très vite dans la ligne droite. Et effectivement, c'est un circuit ouais, qui est très particulier. On est en Italie, on est chez Ferrari, tous les tifosi qui vont être présents. Donc ça a une importance évidemment pour eux. Et ouais, c'est un Grand Prix qui est... qui fait partie de l'histoire de la Formule 1. Et c'est toujours un rendez-vous important et qu'on attend beaucoup. En tant que Français, on se souvient toujours. On a toujours une pensée quand même pour 2020 et cette victoire de Pierre Gasly. Et puis évidemment, l'année dernière aussi, hein, quand on repense à ce qui s'est passé, la dernière victoire de Charles Leclerc. Et un circuit où les vainqueurs, ceux qui ont gagné le plus de victoires, c'est Michael Schumacher et Lewis Hamilton avec 5 victoires chacun. Donc
pas mal.
Ouais, un tracé rapide. Il n'y a pas d'autre définition que rapide.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de place à peu près. En général, ceux qui gagnent, franchement, ce sont de top pilotes. Il n'y a jamais de... voilà, de, je vais dire, un petit coup de chance à Monza en général, ça n'arrive pas. On parlait de Lewis Hamilton, les gars, et on va se focaliser vraiment sur Ferrari. Je vous rappelle que ça s'enchaîne, hein. Zandvoort, c'était seulement dimanche dernier. Vous avez le débrief du Grand Prix des Pays-Bas qui est dispo, bien évidemment, hein, sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, il y a encore plein d'écoutes et on a notamment fait un gros débrief de la course de Ferrari et de Lewis Hamilton. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'on a mis un petit extrait du paddock avec Lewis Hamilton. C'est jamais un sujet qui laisse indifférent. Lewis Hamilton, ouais, et Ferrari. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais dire à tous ceux qui commentent, c'est super cool, franchement, de nous mettre des notes sur les plateformes, hein, les 5 petites étoiles et tout ça, les commentaires. J'ai vu plein de commentaires qui nous disaient un petit peu de gens agacés par certains propos qu'on pouvait avoir sur le fait qu'on ne regardait pas les Grands Prix et tout ça. Si, les amis, hein, on regarde tous les Grands Prix. Tout ce qu'on essaye de vous relayer, ce sont des propos qui sont sourcés. On bosse les chiffres. Voilà, Jean-Luc, ça fait même plus de 40 ans, 50 ans peut-être, je ne sais même pas, il faudra voir avec lui, qui regarde tous les Grands Prix, qui était sur les Grands Prix, qui les a commentés en direct. Donc voilà, on a le droit de ne pas être d'accord, ça c'est une certitude et c'est l'ADN de RMC aussi. Mais voilà, j'ai vu des petits commentaires un peu haineux, pas super cool sur tout ça. Donc voilà, on espère qu'en tout cas qu'on va continuer à faire des débats comme ça, qu'il faut monter la température chez nos auditeurs. Ouais, on parlait d'Hamilton les gars et on parlait de Ferrari. Parce que mine de rien, Tristan, Ferrari joue gros. Et quand tu vois l'accueil encore qu'a eu Hamilton, qu'a eu Charles Leclerc tout à l'heure, j'ai vu une petite vidéo là, que vient de poster la Scuderia sur ses réseaux sociaux où tu as Lewis Hamilton qui parle de l'engouement, de l'accueil par des milliers de tifosi qui sont en train de crier Ferrari et il est en train de les imiter. Même lui, il prend une énorme claque en arrivant à Monza et il y a de la pression autour de Ferrari.
Bah, Monza, ça laisse pas indifférent et peu importe, hein, que vous soyez Lewis Hamilton ou pas, vous allez prendre une claque. Et hier, il y avait une vidéo aussi à Milan où ils avaient un accueil papal. Moi, j'ai comparé ça à un accueil papal vraiment parce qu'on était, bon, déjà on est en Italie, mais surtout parce qu'ils étaient au balcon et il y avait une foule que l'on voit en fait uniquement à la Scuderia Ferrari. On sait que dans le football, il y a des grands supporters, il y a des supporters qui font énormément de voyages, etc. Et puis en F1, on pourrait comparer ça, les ultras, on pourrait les comparer simplement juste à être supporter de la Scuderia Ferrari, parce qu'on voit que ça là-bas. Ce qui amène de ce fait énormément de pression sur ce week-end. On dit souvent que Ferrari garde un moteur uniquement pour Monza, hein, juste pour qu'il soit bien bien rapide sur ce week-end-là. Non, Ferrari va jouer gros ce week-end, Fred Vasseur va jouer gros ce week-end, les deux pilotes vont jouer gros ce week-end, mais en même temps, il y en a un qui est là depuis très longtemps, hein, Charles Leclerc, depuis 2019, il sait ce que c'est de rouler à domicile et il a déjà gagné par deux fois, donc je pense qu'il aura aussi des petits mots et des petits conseils pour Lewis Hamilton, même si c'est pas en sept fois champion du monde qui va prendre la pression, mais ça reste quand même assez différent. Et même, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais ils ont une telle demande au niveau de la presse italienne sur cette semaine-là. Enfin, je crois qu'une fois, c'est Charles Leclerc qui racontait ça dans ses interviews, mais ils n'arrêtent pas une seule seconde. Ils sont constamment sollicités, donc c'est difficile mentalement. Mais derrière, c'est aussi quand vous gagnez, le peuple italien vous le rend fois 100, fois 1000. Donc un week-end avec énormément d'enjeux pour la Scuderia, mais en même temps, on n'attend tellement pas grand-chose que ça peut créer la bonne surprise, un peu comme en 2024 au final.
C'est vrai que tu as raison, on les attendait absolument pas en 2024. Et victoire de Charles Leclerc, tu le disais tout à l'heure, Séraphin. Moi, j'ai une question, Séraphin, là. Les gars, en fait, avec tout ce qu'on a dit sur Hamilton, avec cette pression populaire qui est en train de s'accentuer, avec les médias italiens qui ne sont pas connus pour être les plus tendres, hein, qui sont capables de vous adorer, mais aussi de vous détester peut-être du jour au lendemain, est-ce qu'il peut se mettre vraiment dans la sauce, là, Hamilton, s'il passe au travers, s'il y a... Bah, déjà, il y a ces 5 places de pénalité déjà, sur la grille.
C'est important de le rappeler, t'as raison. Ouais.
Mais ça peut peut-être atténuer sa perf. Au final, c'est peut-être le meilleur truc qui lui soit arrivé, tu vois, c'est ce que je me suis dit, c'est 5 places sur la grille, parce que tu t'attends à rien, et s'il est loin de Charles Leclerc au final, tu te diras que c'est presque logique suite à cette sanction, tu vois. Mais est-ce qu'il peut quand même se mettre dans la sauce si jamais il passe au travers ou s'il y a encore une erreur individuelle?
Non, bah moi je pense, enfin personnellement je pense pas, parce que il est déjà entre guillemets assez bas, et que s'il y a des critiques à la suite du week-end, ce sera pas sur les pilotes, ce sera sur la Scuderia tout court. Le plus souvent d'ailleurs, c'est parce qu'on dit qu'on ne donne pas une monoplace qui a les capacités, et encore plus à Monza, c'est pas forcément un... Alors c'est un circuit où vous pouvez faire la différence en tant que pilote, mais en même temps il y a tellement d'enjeux sur la puissance moteur, sur l'aéro de la voiture, que ça nivelle un petit peu les performances de tout le monde. C'est une piste, j'en avais parlé moi pour la preview du Grand Prix d'Autriche, où c'est une piste où il y a de la F2, il y a de la F3, il y a des formules, il y a même de la F4, il y a des formules de promotion depuis le plus jeune âge qui roulent sur ces circuits-là. Donc tous les pilotes connaissent chaque recoin du circuit. Donc c'est vraiment dans la monoplace que vous pouvez faire la différence. Et donc si Lewis Hamilton ne se, se rate ce week-end, je ne pense pas que la pression va tomber sur lui, mais plus de manière globale sur la Scuderia Ferrari. Et puis la meilleure chose qui puisse arriver aussi à Lewis Hamilton ce week-end, c'est que son coéquipier fasse une très bonne performance, et que si lui en fait une mauvaise, et ça l'éclipse un petit peu.
C'est ça aussi, l'écart entre les deux qui va être
important. Parce que au final, si Charles Leclerc par exemple remporte le Grand Prix, mais que Lewis Hamilton fait un très mauvais Grand Prix, ou que Lewis Hamilton remporte le Grand Prix et que Charles Leclerc fait un très mauvais Grand Prix, la presse italienne retiendra la victoire des pilotes Ferrari. Ce qu'il faut surtout, c'est que les deux ne se ratent pas ce week-end, je pense, parce que c'est là où ça va tomber sur toute l'équipe, et même au niveau du moral, ça va peut-être être compliqué sur la fin de saison à continuer à garder cette envie de travailler sur 2025, tant on sait les regards tournés vers 2026.
Séraphin, je te repose ma question, mais moi je me dis qu'il peut y avoir une vraie pression populaire si Hamilton se loupe. Et on ne le souhaite pas, encore une fois, parce que c'est un énorme super champion qui nous a tous fait rêver. Mais le fait est, et on reviendra sur les chiffres tout à l'heure, on en a parlé aussi un peu dans le débrief de lundi, je vous le disais, de Zandvoort, mais il est dans le dur, statistiquement, quand on le compare à Charles Leclerc, il est dans le dur aussi mentalement, ça se ressent dans son body language, après les courses, quand c'est difficile. Moi, je me dis que ça peut être compliqué s'il passe à travers à Monza.
Effectivement, après ce Grand Prix de Zandvoort, vous avez peut-être plus vu passer cette info comme quoi c'est Lewis Hamilton, le pilote qui a passé le plus de Grand Prix sans podium chez Ferrari. C'est vrai qu'il est très bas, en fait. Les problèmes continuent il y a un problème avec lui et puis la voiture, et ça continue d'être compliqué. C'est sûr que, en fait, à domicile chez Ferrari, avec tous les tifosi qui sont présents, c'est vrai que ça va, rien que les supporters sur place, ça va ajouter plus de frustration et plus d'état d'être plus déçu que autre part, parce que il y a eu des erreurs, la semaine dernière, évidemment, on était quand même surpris de voir Lewis Hamilton se faire piéger, lui qui a autant d'expérience en Formule 1, et partir à la faute. Donc là où il est descendu, je trouve, très bas. Il part avec 5 places de pénalité, donc ça va devenir c'est un inconvénient pour lui. Donc moi je pense qu'il va réussir quand même à tirer quelque chose de cette monoplace. Il a tellement roulé, on l'a dit, sur circuit, je vois pas comment il ferait une erreur. Ou ça va aussi de voir comment il se place face à Charles Leclerc, parce que depuis la saison, évidemment, que on compare avant tout à son principal, à son coéquipier, qui sont adversaires, et on en tire des résultats du potentiel de cette monoplace. Et quand on voit Charles Leclerc qui s'accroche et qui permet quand même à faire des podiums, il faut que Lewis Hamilton soit au niveau, ou en tout cas très proche. Donc en fait l'écart entre les deux qui va être important de voir s'il réussit à être moins de 1 ou 2 dixièmes. Faut qu'il soit le plus près possible de Charles Leclerc. Je pense qu'il en est capable.
Et vous le disiez, il a pris les 5 places de pénalité. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Et pourquoi pas Ferrari, justement, quitte à prendre 5 places de pénalité, entre guillemets, s'ils voient qu'ils ne sont pas vraiment dans le rythme pour jouer la pole position, qu'ils le mettraient 5e, donc encore une place convenable, pourquoi pas prendre un nouveau moteur, des nouveaux éléments moteurs, commencer plus loin. On sait que Monza, ça dépasse très facilement. Et puis on sait que Monza, l'année dernière, Charles Leclerc, il gagne grâce à une stratégie différente. Il gagne grâce à une stratégie à un arrêt, alors que tout le monde tente de s'arrêter 2 fois. Donc en même temps, il y a eu tellement de déceptions à Zandvoort que ça peut que se mieux se passer, j'ai l'impression, à Monza. Et il peut que avoir du positif à tirer de ce week-end. Alors soit en faisant quelque chose de complètement différent des autres, c'est-à-dire en prenant ses pénalités moteurs et en commençant du fond de la grille, soit Ferrari est dès le début du week-end dans le rythme et ça joue la pole position, et s'il prend les 5 places, il est 5, 6e et ça va encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire sur ce week-end pour Lewis Hamilton, ça c'est indéniable.
Puis il a montré aussi sur les Grands Prix de cette saison, je me souviens quand même de courses où il était meilleur en rythme de course qu'en qualification, et il parvenait à remonter des positions. Donc c'est vrai que s'il part d'une place un peu en recul, il est capable de faire une bonne course sur la durée.
Je regardais là un peu le face à face Charles Leclerc, Lewis Hamilton.
Ah, c'est, ouais.
Il l'a dominé que deux fois en course cette saison. Voilà. Après, on se souvient de la disqualification en Chine, le double abandon de la semaine dernière, mais malgré tout. Les chiffres sont assez criants. Et les gars, Lewis Hamilton était en conférence de presse. Et ça, c'est quand même un événement à chaque fois. En plus, avant Monza, bien évidemment, les journalistes lui ont posé la question. Lewis, est-ce que c'est la saison la plus difficile de sa carrière? Bon, la conférence de presse vient de se terminer. Donc, on ne va pas vous diffuser le son et la réponse de Lewis Hamilton. Mais je vais vous donner sa déclat. J'ouvre les guillemets, je cite Lewis Hamilton. Il dit honnêtement, je pense que plus c'est difficile, plus cela peut vous rendre meilleur. Et cette année a vraiment été dure. Donc voilà, il admet quand même qu'il est en galère. Il dit mais cela nous prépare à de meilleurs jours. Je suis convaincu que nous en sortirons plus fort. Voilà pour sa petite déclat. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu d'énergie. Tu avais le Lewis Hamilton à Zandvoort qui disait « Je veux rentrer à la maison ». Et là, il a eu l'accueil des tifosi et coup de boost de Lewis. Et donc, il n'a pas vraiment répondu à la question. Hein, parce qu'il a dit aussi un peu plus tard dans la conf, il a dit « Bon, je me souviens pas de toutes mes saisons, mais je sais qu'en 2009, c'était pas génial. En 2010, en 2011, en 2012, j'avais aussi galéré. 2022, 2023. » Donc, il dit « En fait, il y a beaucoup de saisons où j'ai été en difficulté. » C'est la saison la plus difficile de sa carrière pour vous les gars ou pas, Tristan?
Je pense que Mercedes il a quand même pris la plus difficile, ça dépend sur quel plan, parce que je pense que 2022-2023 avec Mercedes ouais. C'était quand même très très compliqué, même mentalement ouais. C'est se prendre une claque de se battre pour le championnat. Il me semble que c'est en Arabie Saoudite, il passe pas la Q1 en 2022 ou quelque chose comme ça, ou en 2023, je sais plus exactement, mais c'est vraiment quelque chose de dur. Et au final, cette année, il reste quand même, il est quand même, alors il est sixième du championnat pilote et Ferrari est quand même deuxième du championnat constructeur. Donc, même si Charles Leclerc marque plus de points que lui, je pense que cette année n'est pas non plus une année catastrophique. Une année, ça sera peut-être une année blanche en victoire. Ce serait dommage, mais ça risque d'arriver. Faut l'espérer en tout cas. Enfin, faut pas l'espérer en tout cas. Mais ça, pour moi, ça n'est pas une saison si compliquée que ça. Par rapport à ce qu'il a vécu, et surtout, c'est une saison compliquée si on la met en relation avec la pression qu'on lui a mis et surtout l'attente ouais. qu'on avait. Forcément, si on se dit en 2025, quand il arrive, bah, Lewis Hamilton va jouer le titre avec Ferrari, c'est sûr que vous êtes déçu. Après, si on est un peu plus réaliste et qu'on prend du recul, on sait qu'en 2025, bah, la monoplace n'a pas le rythme pour jouer le titre, elle a le rythme pour jouer des victoires, et encore, ça dépend quel Grand Prix. Donc, une saison compliquée, après de là à dire que c'est sa saison la plus difficile, je ne pense pas.
Et il a 42 points de retard ouais. sur Charles Leclerc.
Il n'y a quand même aucun podium et même aucune victoire, même pour Charles. Donc c'est vrai que la saison...
Charles, il est monté une fois sur le podium. Hein.
Oui, il est monté. Non, je disais aucune victoire, oui, aucune victoire, aucun podium pour oui. Lewis, justement. Ça serait, je pense, décevant justement s'il n'y a même pas un podium quand même cette saison.
Si, bah ouais, ouais, ouais.
S'il termine 5-6 jusqu'à la fin de la saison... Alors on se dire, ok, bon, l'écart des points, aucun podium, ça va être l'année prochaine va être attendue aussi avec beaucoup d'impatience.
Et même si Jean-Luc, on l'a dit le lundi, que c'était qu'une coursinette, il gagne quand même en sprint. Donc il a quand même toujours cette vitesse en Chine où il est capable d'aller chercher une victoire. Ça reste une course sprint, mais où il est capable d'aller chercher des gros résultats. Donc je ne pense pas que ce soit la plus dure en termes de résultats de sa carrière. Par contre, la transition avec Ferrari est peut-être très compliquée.
C'est surtout ça,
c'est possible, la façon de travailler, la façon de communiquer. On voit encore des soucis avec ses ingénieurs en piste,
mais il a
etc.
été très bon sur ça d'ailleurs, Tristan, c'est bien que tu en parles, parce que pour le coup il a dit qu'il avait eu toute l'année dernière pour se préparer au changement avec Ferrari, que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ajustements, mais il dit Ferrari a déplacé ciel et terre pour m'accueillir, tu vois. Donc le contexte, il s'en cache pas, le contexte il est ultra favorable, c'est compliqué
oui,
pour lui, mais malgré tout ils ont tout fait pour qu'il soit le plus à l'aise possible et le plus performant possible rapidement, hein, tout de suite.
Ça n'empêche que derrière lui, il doit aussi, c'est pas parce que vous allez, Ferrari va faire tous les aménagements possibles que ça va être forcément plus simple pour lui, parce qu'il y a des choses que Ferrari ne change pas qui sont peut-être très dérangeantes pour Lewis justement, et on parle notamment de la communication, de la façon de travailler, de la façon d'organiser les week-ends. Ils se sont pas non plus, Ferrari fait de la communication en disant ça, ils ne sont pas non plus pliés aux exigences de Lewis, et c'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Donc attendons de voir peut-être un peu plus tard dans la saison, voire en 2026, s'il a réellement réussi ce changement d'équipe et de ce changement de façon de travailler. Et après, effectivement, là, on pourra juger si c'est si difficile que de bosser chez Ferrari pour Lewis Hamilton.
Les gars, qu'est-ce que vous voyez un petit peu là comme physionomie de course à Monza? Est-ce que vous voyez McLaren ultra dominant sur cette piste spéciale, Séraphin, ou au contraire, ce tracé fait que tu as d'autres écuries qui peuvent mettre le nez à la fenêtre?
Oui, ça peut. Faut quand même. Bien sûr que McLaren devrait être aux avant-postes, mais ça peut effectivement. Niveler un peu au vu de la possibilité de sur cette longue ligne droite de dépassement. Il va falloir voir un peu les écarts aussi sont très faibles en qualification quand même, donc il suffit qu'une des deux McLaren se parte troisième ou voilà qu'il y ait une Ferrari entre les deux, ça peut rendre une course un peu différente en tout cas. Mais oui, on voit quand même McLaren être devant. Après, il va falloir, c'est dur pour l'instant de donner des réponses. J'attends quand même de voir le rythme en essai libre. Et puis voilà, vu que c'est un circuit de moteur, il faut avoir de la vitesse de pointe. Donc ça va être justement intéressant de voir un peu les écarts, gérer le trafic aussi en qualification pour pas se faire avoir. C'est important. Il y a toujours aussi des situations un peu compliquées, souvent. En Q3, donc voilà, faut qu'il y ait personne qui se fasse avoir, donc ouais.
Faites-moi les petits pronos un peu là, vous avez des pronos pour ce week-end?
Je pense que la surprise de ce week-end, ça va être Max Verstappen, parce qu'on l'a vu avec un aileron déchargé, à quel point il est facile. Je pense que Max Verstappen peut jouer les troubles faits. Après, entre les deux McLaren, Max Verstappen en parlait avec Lando Norris à la suite du Grand Prix de Zandvoort où Lando Norris a abandonné sur casse moteur. Lando Norris va avoir un moteur neuf, donc
exactement,
ça peut paraître anecdotique.
Ils l'ont dit à McLaren qu'il y a
ils l'ont pas dit, mais bon, comment son moteur est parti, vu comment ça fumait dans la McLaren, je pense qu'ils vont quand même lui mettre des pièces neuves.
Parce que le moteur s'est mis en sécurité, de ce que j'ai pu comprendre. Il s'est mis en sécurité parce que justement il y avait un problème au niveau châssis, au niveau de l'huile. Le moteur s'est mis en sécurité pour ce pas éviter qu'il y ait un problème. Donc peut-être
Tu veux dire qu'il n'est pas touché, il n'est pas cassé.
Ou alors ils vont peut-être changer de moteur, comme tu dis, et peut-être le réutiliser plus tard en fin de saison.
C'est parce que pour vérifier un moteur en une semaine, c'est parce que ça me semblait vraiment très court. Enfin, même pas en une semaine, il faut le renvoyer en Angleterre, qu'il vérifie les pièces, qu'il le renvoie ensuite en Italie. Bon, en tout cas, Lando Norris peut faire une belle performance s'il a un nouveau moteur ce week-end par rapport à son coéquipier. Après, oui, ça va clairement se jouer, je pense. La qualification peut nous offrir une pole différente d'un des pilotes McLaren, mais en course, ils ont une telle avance sur la gestion de course, le rythme de course, la gestion des pneus. C'est tellement dominant que, sauf cas exceptionnel, safety car ou un drapeau rouge, ce qu'on n'espère pas forcément, mais quelque chose qui pourrait entraver la course, les McLaren devraient repartir avec le plus de points. Même si on l'a vu l'année dernière, ça ne veut pas forcément rien dire, parce que l'année dernière, la McLaren était aussi très rapide et une stratégie un peu différente peut tout changer.
Mais, c'est clair.
Mais Lando Norris, je pense, peut prendre le meilleur sur Oscar Piastri. Et après, je pense que Max Verstappen peut jouer les troubles faits avec une Red Bull avec un aileron aussi fin qu'une feuille de papier A4. Donc ça peut être intéressant.
Charles Leclerc aussi, qui est quand même aussi bon sur ce circuit,
Charles Leclerc, qui est
à l'aise. Et moi, je le vois bien aussi, Charles Leclerc, quand même se positionner derrière, mais jouer les troubles faits entre. Verstappen, t'as raison.
Excellent.
C'est une possibilité quand même.
Il peut se passer plein de choses. C'est ça qui est
Verstappen,
cool.
On l'attendait pas finalement le week-end dernier, et quand on voit la course qu'il fait, franchement, impressionnant le rythme.
Oui, et puis c'est un Grand Prix avec un circuit qui nous offre toujours des surprises. Dans tous les cas, c'est rare les week-ends à Monza où au final on s'ennuie presque. Donc ça va être un Grand Prix, je pense, avec pas mal de rebondissements, que ce soit de la qualif à la course.
Parfait, ça c'est un bon teasing, mon Tristan, c'est énorme ce que tu viens de faire, tu nous as tous donné envie d'allumer la télé ce week-end. Les gars, je voulais revenir aussi sur deux infos qui sont tombées là depuis lundi. Il y a eu un petit tour de table qui a été organisé par Stefano Domenicali, qui est le patron de la Formule 1, on le présente comme ça, qui parlait des futurs formats des week-ends en Formule 1. Vous savez que la F1 est toujours à la recherche de plein d'innovations. qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le spectacle, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la performance, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le spectacle sans dénaturer l'histoire de ce sport-là. Et souvent, ça, c'est un vrai débat. Et du coup, il y a plusieurs propositions qui sont tombées sur la table. Alors, il y a notamment eu, Séraphin, un vrai débat autour des sprint races. Qui avait été accueilli de façon assez difficile par les pilotes. Hein. C'est vrai qu'au départ, quand on a mis ce format en place, ça ne matchait pas de dingue. En tout cas, c'est ce qu'on avait comme remontée. Et finalement, la Dominicali, il dit que maintenant, les pilotes adorent ça, qui sont 80% à être pour qu'il y ait un peu plus de sprint race. C'est quoi ton avis, toi? Est-ce que comment tu perçois ce format avec la course sprint? Là, c'est toujours des week-ends particuliers.
Ah oui, tu as raison. Depuis 2021, ça a été introduit. Il y en avait 3 dans un premier temps. Et puis après, au bout de 2 ans, on est passé à 6. Donc, on a déjà quand même augmenté. J'ai du mal à voir cette sorte de déclaration, à voir que tous les pilotes ou 80% des pilotes seraient satisfaits de effectivement ces week-ends sprint. Moi, j'avoue que c'est assez. Je pense qu'on a chacun un peu un avis aussi un peu sur ces week-ends sprint, parce que en fait, entre avoir beaucoup une séance du coup d'essai libre seulement le vendredi et enchaîner, effectivement, il faut être prêt beaucoup plus rapidement sur le week-end et on a plus de qualifications, plus de courses. C'est difficile. J'ai jamais été, personnellement, jamais été vraiment fan de ces week-ends, même si je trouve que depuis 2 ans, il y a quand même eu des week-ends qui étaient plus intéressants. Et surtout aussi depuis qu'ils ont cassé la règle de parc fermé entre le samedi et le dimanche. Ça, c'était quand même plutôt positif aussi, parce que du coup, on peut régler différemment les voitures. Et donc, des pilotes qui auraient mal fait des réglages, on a déjà vu quand même des courses différentes le dimanche. Donc, tu as raison, en fait. Bah, sur cette déclaration, c'est Stefano Domenicali qui, effectivement, donne des... Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il donne juste des pistes de réflexion.
Ouais, c'est de la réflexion.
Voilà,
c'est
comment
ça.
La F1 pourrait évoluer dans les prochaines années.
Mais tu vois,
années.
lui, il dit qu'à part certains fans inconditionnels de la première heure, bah, il en rajoute bien évidemment, hein, mais il dit que tout le monde veut des week-end sprint.
Bah après,
il dit que par exemple les promoteurs font vraiment un peu pression pour ce format, que c'est plus attractif pour le grand public.
Bah c'est ce qu'il dit, et c'est aussi gagné d'ailleurs les week-ends. C'est sûr que sur place pour les fans, c'est un argument d'ailleurs qu'il met en avant, de dire que dès le vendredi on peut déjà assister à une qualification, donc c'est plus excitant, il y a plus de spectacles. Donc ça ramène aussi plus de monde sur les week-ends, parce que ouais, c'est trop bien, il y a une course en plus. Donc c'est sûr que l'expérience sur place est meilleure, on peut faire encore plus de choses, on remplit encore plus les tribunes. Donc c'est ce qu'il met comme argument. Et après, il parle aussi de c'est ce que veulent les jeunes. J'ai lu aussi des déclarations. Alors c'est vrai qu'on va encore une fois avoir tous un avis. En vrai, c'est intéressant d'échanger là-dessus, mais de dire que les gens veulent... des fois, les gens ne regardent même pas les courses en entier et qu'en fait, ils regardent uniquement des moments clés ou des aspects un peu spectaculaires du Grand Prix, les highlights. Ouais. Donc ouais, si tu vois une course sprint, tu as 2 podiums, c'est génial. C'est franchement, c'est là où il y a, je pense, des vrais débats qui se font. Moi, je suis pas de cet avis. Je pense que la F1 doit garder quand même une ADN qui est importante pour garder des bases. Je pense que les courses sprint à 6, je trouve que c'est déjà bon. Ça fait quand même un quart des grands prix,
des
week-ends dans
ouais.
l'année. Je trouve que c'est déjà intéressant. Si après on est plus pertinent sur quel grand prix on veut mettre pendant les courses sprint. Peut-être que si des courses sont un peu d'habitude moins intéressantes, on pourrait se dire « Ah tiens, mettre un week-end sprint, on ne fait aucun arrêt. » Ça pourrait effectivement être intéressant, mais...
Tu sais qu'en MotoGP, ils en font une par...
Une par week-end.
Une par week-end.
Exactement, ils s'en font une par week-end. Après, ils parlent aussi de dire que les Grands Prix sont trop longs, donc en fait, il faudrait peut-être changer les formats.
Ouais.
Moi, ça me paraît...
Les gars, moi, il y a quand même un truc sur lequel je veux vous entendre. C'est que l'ami Stefano, il nous a dit à un moment « On réfléchit au concept de grille inversée. »
Mais ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'ils en parlent de... Ouais.
Tristan,
tout ça n'est qu'une histoire de pognon. Quand Stefano Domenicali dit que les promoteurs veulent des courses sprint, c'est tout simplement parce que les promoteurs payent plus pour avoir des courses sprint, parce qu'il y a plus de droits télé. Forcément, les diffuseurs ont deux fois le... Alors, pas le mot grand prix, mais ont deux fois le mot course quand ils annoncent un week-end. Donc forcément, ça ramène plus d'argent. Stefano Domenicali, il pense, quand il dit c'est ses déclarations, il pense absolument pas au spectacle, il pense qu'au pognon, et il prend surtout le problème par le mauvais sens. Parce qu'on prend le problème de il n'y a pas assez de spectacles en F1, parce que c'est ça le vrai problème au final, c'est qu'il n'y a pas assez de spectacles en F1 selon lui, il ne se passe pas assez de choses. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de faire des réglementations qui nous donnent plus de spectacles, comme on a en MotoGP, hein, MotoGP ils n'ont pas une recette magique pour qu'il y ait plus de spectacles, hein, c'est tout simplement parce que, alors même si cette année ce n'est pas forcément le bon exemple avec Marc Marquez, mais on a quand même des dépassements à tous les niveaux de la course, et bien c'est simplement parce que les motos sont des motos qui permettent de se suivre, de se dépasser, même si on l'a vu d'ailleurs récemment, les motos c'est de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus d'aéro, etc. Donc on prend le problème par le mauvais sens, plutôt que nous donner des réglementations qui permettent aux pilotes de se battre en piste, eh ben on essaye de modifier un peu les formats des week-ends.
Artificiellement, en fait, finalement.
Artificiellement. Ouais. Bientôt, on va faire peut-être comme en NASCAR, où on va nous introduire des drapeaux jaunes à mi-course, des safety cars, et où, en fait, on va assurer la course. Enfin, voilà, la grille inversée, c'est pareil. Il y avait le débat en 2018, il me semble, où je crois que c'est Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel qui dit ça, mais si ceux qui veulent ça n'aiment pas le sport, tout simplement. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça en F1 en même temps, des idées saugrenues. Je crois que c'est en 2016 en Australie où on a les qualifications. Je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là où on a les qualifications où vous avez un temps et où le dernier dans le classement a 5 minutes pour monter avant d'être éliminé. Bah, c'est resté un grand prix. Voilà. Donc on essaye des choses, mais ça marche pas bien. Bon, les courses sprint, je trouve pas que ça amène énormément d'intérêt. Alors oui, pour les fans sur place, comme le disait Séraphin, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est un peu plus passionnant, mais en même temps, la F1, elle a ce format de faire des essais, puis des qualifications, puis des courses depuis 75 ans. On célèbre les 75 ans cette année. Si le sport a duré pendant 75 ans, bah, c'est peut-être pour ça aussi. Donc,
Si on met qu'une séance d'essais libre aussi, surtout les week-ends, comment on règle la voiture ? Pas compte, mais derrière,
ouais. Non, mais il y a des choses très intéressantes selon moi qui ont été faites. Par exemple, quand on parle du budget de cap et le plafond d'argent pour toutes les écuries, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on avait des Ferrari, des Mercedes qui dépensaient presque des demi-milliards par saison pendant que Haas n'arrivait même pas à arriver au plafond du budget de cap de cette année, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça met tout le monde sur un pied d'égalité sans pour autant changer les cartes du jeu ou rajouter un joker qui ne devrait pas être là. Maintenant, faire des grilles inversées, c'est juste dénaturer tout simplement la réussite d'une équipe, la réussite d'un pilote, d'une monoplace, d'une équipe qui a travaillé dessus pendant un an, d'ingénieurs, d'aérodynamiciens. Ça, pour moi, ça n'a juste aucun sens et c'est juste une histoire de pognon.
Je suis d'accord avec vous, les gars, mais après, on va dire ouais, mais nous, on est des puristes, voilà. Les gens.
Selon moi, il ne faut pas être puriste pour penser ça. Après, je comprends en même temps qu'on essaye les sprints. C'est quelque chose de. Moi, je n'ai pas de réelle problématique à garder des sprints actuellement. Ça permet d'avoir des week-ends différents, ça permet d'avoir parfois quelques surprises, justement, sur la grille le dimanche ou le samedi. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, il ne faut pas le généraliser. Et le problème avec Stefano Domenicali, c'est que dans ses déclarations, il est en train de nous dire que ça va être généralisé et surtout que ça va être amené à plus de Grands Prix, tout simplement parce qu'il voit une formule MotoGP. Il faut rappeler que Liberty Media a racheté le MotoGP, oui. D'ailleurs. Et que, voilà, on se demande pourquoi cette déclaration sort à ce moment-là. Bah, y a peut-être une raison. Mais il faut que chaque sport reste dans sa zone, entre guillemets, et qu'on n'essaye pas de copier un autre sport parce que ça marche sur l'instant T et que dans l'avenir, ça marchera peut-être moins bien. Donc, il faut garder de la logique et il faut surtout ne pas insulter les fans parce que Stefano Domenicali insulte un petit peu les fans avec sa déclaration.
C'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi.
Puis on sait que c'est lui aussi qui parle directement avec les promoteurs pour.
C'est qu'une histoire de pognon.
Pour les circuits, on l'a vu de son, hein, depuis 2020 qu'il
est président.
Arrêtez de
dire ça, j'ai l'impression d'entendre Jean-Luc, c'est qu'une histoire de pognon.
Les promoteurs payent plus pour avoir justement des week-end sprints. Donc forcément, lui, il ne va pas dire que les promoteurs ne veulent pas des week-end sprints.
Il a même dit d'ailleurs, j'ai vu par rapport à Zandvoort, il a dit je remercie Zandvoort, les Pays-Bas pour tous ces moments et tout ce qu'on a eu. Mais c'est vrai que derrière il y a un manque d'appui du gouvernement et ce qui fait qu'en fait ils ont moins de le budget derrière de
oh incroyable la même chose qui donc, s'est passé en France voilà. La même chose qui se passe avec le Grand Prix de France, c'est une histoire de pognon.
Et derrière on a mis profit des Grands Prix qui payent des sommes sommes énormes, donc mais au final je trouve que c'est un débat intéressant d'avoir les avis de chacun. Chacun a un avis sur comment il voudrait voir évoluer les week-ends, mais c'est que par rapport à tout ce qu'on connaît globalement dans la F1, tout ce qui est l'histoire de ce sport, c'est plus difficile. Et au final, s'ils veulent vraiment plus de spectacles, en fait, c'est aussi c'est les voitures qu'il faudrait adapter pour que les pilotes puissent plus se battre pour et d'ailleurs les pilotes quand on leur parlait de mettre des V10 ils étaient direct plutôt hypés par l'idée parce que c'est plus bruyant et ils savent d'ailleurs aussi ce que ça représente donc ouais non, c'est intéressant comme débat mais là effectivement cette déclaration elle a fait beaucoup réagir et c'est normal.
Et tiens d'ailleurs, hein, Dominique Ali, il a parlé également de trois grands prix potentiellement qui pourraient revenir au calendrier, des grands prix mythiques, hein, Hockenheim, Portimao, Istanbul, parce qu'on sait que Zandvoort, la F1 n'ira plus tout de suite en tout cas. Il y a des tracés qui sont en fin de contrat. Donc voilà un petit peu les news de Dominique Ali. Les gars, je voulais vous entendre également sur l'arrivée d'un nouveau pilote Cadillac. Le troisième pilote a été officialisé. On en parlait beaucoup peut-être pour être titulaire. Hein. Il s'agit de Colton Herta. Très bon jeune mot d'Arnaud Valadon dans notre groupe WhatsApp du paddock RMC qui nous a dit attention Herta, faut pas le prendre pour un jambon. Voilà, on le relaie parce que celle-là est quand même exceptionnelle. Un pilote américain chez Cadillac, c'est un peu le sens de l'histoire. Il a 25 ans en plus, il va apprendre auprès de deux monstres, Perez et Bottas, deux monstres en tout cas en termes d'expérience, deux pilotes qui ont déjà gagné. On se dit que c'est le choix un peu parfait pour derrière le propulser et le mettre titulaire un jour, quoi.
Oui, et puis en début de semaine, on a appris par le média The Race que Mick Schumacher avait refusé du coup une proposition de Cadillac qui lui offrait un siège en tant que pilote de réserve en F1 et également un programme en WEC. Donc on a appris que l'Allemand avait refusé cette offre. Et là, on a appris hier que Colton Herta allait rejoindre en tant que troisième pilote l'écurie américaine. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette information, parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais elle va suivre, vous inquiétez pas pour ça, il devrait normalement rouler en Formule 2 l'année prochaine, oui. Colton Herta. Et c'est vraiment cette démarche qui est intéressante, parce qu'on sent que Cadillac veut pas le jeter dans le grand bain de la Formule 1 trop tôt. C'est quand même quelque chose de totalement différent que le sport auto aux États-Unis, totalement différent de la mentalité de la NASCAR et de l'IndyCar. Donc on veut pas tout de suite le jeter dans le grand bain et on veut le tester d'abord en F2 pour voir peut-être son rythme, etc. On sait pas encore dans quelle équipe de F2 ça pourrait être. Même si vu que Cadillac est motorisé par Ferrari l'année prochaine, on peut peut-être penser à par exemple à Prema. Ça pourrait peut-être être un accord qui pourrait être trouvé entre les deux parties, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une information positive, je trouve, pour les Américains, parce que c'est on a souvent eu peur de mettre des pilotes qui roulaient en IndyCar très bon. On pense à Alex Palou, forcément, qui est champion d'IndyCar et qui a réalisé une saison exceptionnelle, qui est assez proche de McLaren, et on s'est dit parfois est-ce qu'il va peut-être tenter de sauter le pas et de venir en F1, et au final ça s'est jamais réellement fait. Et là on a Colton Herta qui arrive en tant que troisième pilote, donc c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre l'année prochaine. Et puis si c'est vraiment confirmé la F2, mais normalement ça devrait être fait, ça va être aussi intéressant de suivre ses débuts l'année prochaine. Et puis Perez et Bottas, ce sont de vieux briscards, mais avant d'être briscards, ils sont surtout vieux. Donc il faut penser déjà à l'avenir pour Cadillac.
Tu fais mal, toi. Tu fais mal, hein, parce que je vais avoir 35 ans, les gars. Hein,
c'est vrai qu'au final, Bottas, peut-être pas encore, même s'il a le look. Mais Perez, il est en Formule 1 depuis. Perez, c'est McLaren, c'est quoi? C'est 2013.
Mais c'est là
2011.
2011, ah oui non, avant même, enfin voilà, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont là, donc ils pensent déjà à l'avenir, Cadillac. Et puis Colton Herta, c'est même pour le marché américain, on pense à General Motors, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un pilote, un pilote américain à bord de son équipe.
C'est le choix effectivement de pilote titulaire en fait dans les trois, quatre prochaines années. On savait très bien que de toute façon faire un choix comme Sergio Perez et puis Valtteri Bottas, c'était parier sur le court terme pour apporter énormément à l'écurie de pilotes qui ont l'expérience. Donc là, effectivement, on nous annonce que ça va être le troisième pilote de réserve. Pour l'instant, il est d'ailleurs que pilote essayeur, parce qu'en fait, il n'a même pas la super licence. J'avais vu ça, mais il lui manque 6 points pour sur 40 pour avoir la super licence. Donc c'est clairement un choix d'évoluer avec un pilote qui est en IndyCar depuis 2019, hein, quand même, qui était vice-champion l'année dernière en 2024.
Plus jeune vainqueur, je crois, en IndyCar aussi en 2019, ouais, c'est ce que j'allais dire, quand il gagne. C'est quand même un talent brut. Ouais.
C'est un vrai pilote. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu plus en arrière, il a pas mal roulé déjà en monoplace en Formule 3, en Formule 4, notamment en Europe, en Bretagne, en Espagne, dans les années précédentes. Donc, il connaît, c'est quand même, c'est différent, mais je pense qu'il connaît quand même peut-être quelques circuits, en tout cas, même s'il n'a pas roulé dernièrement, mais il connaît un peu la monoplace européenne. Et voilà, donc, ce qui est très, très bien, du coup, de le faire évoluer dans une saison l'année prochaine en Formule 2, où il va apprendre beaucoup de choses. Et quand même, c'était important d'avoir un pilote américain dans une écurie américaine qui arrive en Formule 1. Donc, ce que
Haas n'a jamais réussi à faire, en fait. On a l'impression que Cadillac est en train de faire ce que Haas n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire séduire vraiment le marché américain.
Absolument.
Alors, on sent que derrière, il y a le constructeur et le groupe General Motors qui poussent forcément pour. Mais c'est vrai qu'au final, Haas, on aurait presque oublié leur bannière américaine, tellement Cadillac arrive avec tous les clichés américains, le pilote américain, l'expérience, le SUV, la grosse voiture.
Donc, les gens que ça représente dans le sport automobile, ouais, carrément.
C'est vrai.
C'est clair. Bon, bah, les gars, merci beaucoup. Hein, on a fait le tour de toutes les actus, de toutes les infos Formule 1 là, avant ce Grand Prix d'Italie à Monza. On va se régaler, franchement. Moi, j'adore ce Grand Prix de Monza. C'est quoi, même les tribunes rouges comme ça, là, rien que ça. Moi, je suis content de me mettre devant ma télé.
Et le podium est quand même assez exceptionnel à chaque fois, avec l'envahissement de la piste et cet immense drapeau Ferrari qui à chaque fois est brandi par tous les fans. Et puis ça nous rappelle aussi des comme Schumacher qui remonte quand il y avait les fans sur la piste là, qu'il arrive à Mach 12, un peu à la Lewis Hamilton à Zandvoort, mais il n'y avait pas les drapeaux jaunes, et puis il est les deux mains sorties du baquet, puis il leur dit poussez-vous. C'est quand même des images qui sont à chaque fois.
C'est un super week-end, et puis on l'a pas dit, mais quand même aussi Norris, c'est grosse pression pour lui finalement de rebondir.
Je pense qu'il est capable de.
Il faudrait qu'il gagne, ou en tout cas qu'il soit le plus près possible, mais il va rien lâcher. Je pense que
c'est sûr.
Ah, vous m'avez donné envie.
De toute manière, il ne peut plus rien lâcher s'il veut encore espérer quelque chose.
Et puis Isaac, évidemment, on va le voir aussi.
Isaac, d'ailleurs, il lui a refait un petit trophée là, parce qu'il a cassé sa coupe, Isaac, vous avez vu là. Du coup, il lui a refait un petit trophée. Mais il veut garder la coupe cassée quand même.
Il a moins de pression là. Je pense qu'il doit être content, excité de prendre des risques, comme il dit. Prendre des risques pour chercher des grosses positions. C'est un super week-end.
Et je voulais réhabiliter les gens de 35 ans qui ont une coupe mulet. Non, vous n'êtes pas vieux.
et une moustache.
C'est à la mode. Et une moustache, bien évidemment. C'est à la mode, Tristan. Oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. Allez, ciao. N'oubliez pas de partager le podcast. N'oubliez pas de nous mettre une petite note. Et on se retrouve lundi avec Jean-Luc et avec toute la team du Paddock RMC pour ce débrief du Grand Prix d'Italie. Bye bye, les gars.
Salut.
Le Paddock RMC.